on a deux vies. La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une, disait Confucius. Aujourd'hui, pas de cours magistral ni de réponse toute faite. Juste une question directe, qu'est-ce que réussir sa vie ? Madame de Lobel, une professeure de philosophie du lycée Gimont, est l'invitée d'élèves de 3e du collège de Jastres. Elle incite ses élèves d'Aubenas à s'exprimer, à chercher, à douter. C'est ici que commence la réflexion où chaque idée peut être renversée. Place au débat, place à la pensée en action sur InfoRC.
Bonjour tout le monde, donc moi c'est Madame de Lobel, je suis professeure plutôt en terminale parce que c'est une discipline qui apparaît en terminale pour le bac. C'est une matière que tout le monde aura forcément au bac, que vous fassiez un bac technologique ou un bac général. C'est plutôt une matière de fin de parcours, de fin de bac. Donc c'est chouette pour vous que vous puissiez avoir cette séance-là pour comprendre un peu ce que c'est. Donc je remercie votre professeur.
Parfois on se projette avec le stress de choisir son lycée, etc. Mais on peut aussi se projeter plus positivement. Donc c'est un petit peu dans le cadre du parcours à venir qu'on a voulu penser cette intervention. Voilà, donc vous faites sauter quelques années, vous êtes en terminale.
Alors, au bac, si vous faites de la philo, comment ça va se présenter ? Il y a deux exercices qui ne sont pas des exercices, je crois, que vous faites au collège. Ça va être un peu nouveau. Le premier exercice en terminale que vous allez faire, c'est aussi ce que vous ferez en français, même si c'est complètement différent en philo et en français. C'est ce qu'on appelle la dissertation. Il ne me semble pas que vous avez dissertation au collège, c'est comme on dit vos camarades tout à l'heure. Vous avez déjà entendu quand même ce mot ou pas du tout ? Les plus grands là, qui disent « je dois finir ma dissert pour ce week-end », non, vous n'avez jamais entendu ? Une dissertation, c'est en fait un exercice où on va vous demander de rédiger de manière construite. D'accord ? On va vous poser une question, alors ça peut être en économie, en philo, ça dépend des matières que vous aurez, en français, etc. Vous allez devoir, ça va commencer en seconde et puis ça va s'intensifier un peu en première et puis encore plus en terminale avec le bac. Vous allez devoir rédiger une réponse construite avec un plan. Voilà, par exemple, vous allez avoir une première partie dans votre plan qui va répondre d'une certaine manière, une deuxième partie qui va explorer un autre aspect du sujet, et puis une troisième partie qui va explorer encore un autre aspect. Donc, vous allez apprendre à écrire un peu plus que ce que vous faites déjà cette année. Pour vous donner une idée, au bac de philo, la moyenne d'une copie, c'est, on va dire, 8 pages. Aujourd'hui, ça vous paraît énorme, mais en fait, vous allez voir qu'avec toutes les connaissances que vous allez apprendre et puis l'habitude aussi d'écrire, etc., ça va finalement ça va se faire tout seul, ne vous inquiétez pas. Un exemple de sujet de dissertation, l'année dernière, par exemple, au bac, le sujet qui est tombé, c'était un sujet sur la science. Donc, c'est pas pour rien quand même que c'est votre prof de SVT qui me demande de venir. Le sujet de bac l'année dernière en philo, c'était, je ne sais plus exactement ce mot-là, mais je crois que c'était à peu près « La science peut-elle atteindre la vérité ?» Ça vous paraît peut-être étonnant comme question, mais quand on dit « la science peut-elle atteindre la vérité ?», c'est comme si on demandait si finalement la science pouvait arriver un jour à atteindre, parce que « atteindre », vous êtes d'accord, c'est un peu cette idée que c'est quelque chose qui est tout là-haut, puis ensuite on l'atteint et c'est bon. Que la science pourrait atteindre la vérité. Est-ce que vous percevez en quoi c'est pas si simple ? Que même si la science propose des vérités, en quoi est-ce qu'on peut pas forcément dire qu'elle va atteindre la vérité ? Oui.
Quand vous avez dit la science peut atteindre la vérité, ça peut être des fois difficile avec quelques petites erreurs qui peuvent faire une seule petite erreur qui peut faire tout recommencer, quoi. Et du coup, ça peut être un peu dur, ça va monter, puis après descendre, puis après remonter.
Ok, en tout cas, effectivement, on va pouvoir peut-être trouver parfois des erreurs qui vont remettre en question tout ce qu'on pensait. Et la science va devoir peut-être trouver d'autres hypothèses que celles qu'elle avait pensées au départ. Vous avez raison, oui.
Aussi avec la science, aujourd'hui on découvre encore des choses.
Exactement.
Et du coup on n'a pas toute la vérité encore.
Exactement, vous avez raison, ça veut dire que tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la science, elle a réussi à nous donner ce qu'on appelle une réponse provisoire. C'est-à-dire que c'est la meilleure réponse qu'on a trouvée à aujourd'hui de répondre à ce problème-là. C'est ce qu'on a de mieux pour expliquer les phénomènes, mais rien ne dit que demain, il n'y a pas une expérience nouvelle qui va nous confronter au fait que ce n'est pas suffisant ce qu'on a trouvé et nous demander soit carrément de renouveler notre théorie, soit peut-être de l'adapter, de l'ajuster, ou soit au contraire la renforcer. Bref, vous avez raison, la science évolue tout le temps. Donc si elle évolue, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment l'atteindre. Donc en un sens, oui, on peut dire que la science est ce qui nous permet d'obtenir la vérité, mais le mot « atteindre », il n'est peut-être pas ici ce qui convient le mieux. Donc en philosophie, on va beaucoup aussi travailler sur les mots, analyser les tournures de phrases, essayer de chercher les étymologies des mots, essayer de chercher le sens et la définition des choses qu'on traite. Donc une dissertation, voilà, c'est un exercice où vous allez devoir rédiger de manière structurée votre propos. Et le deuxième exercice qu'on vous donne en philosophie, c'est l'explication de texte. Donc ça, je pense que c'est peut-être plus simple à comprendre pour vous. C'est aussi ce que vous aurez en français, mais pareil, de manière différente. Qu'est-ce que c'est une explication de texte ? Vous aurez le choix en fait, au bac entre les deux exercices. Vous avez un texte et vous avez 4 heures, donc l'épreuve elle dure 4 heures. Vous avez 4 heures pour expliquer ce texte, c'est-à-dire vraiment, je vous donne un exemple ici, tout à l'heure je vous distribuerai ce petit texte-là. Vous aurez le jour du bac 4 heures pour expliquer ce texte, ligne par ligne, en trouver l'idée générale, qu'est-ce que l'auteur veut dire, pourquoi est-ce qu'il dit ça, pourquoi est-ce qu'il utilise tel mot, est-ce que cet argument-là, je peux le contrer, est-ce que j'ai d'autres auteurs que j'ai vus en cours qui me permettent de contredire ce que cet auteur-là dit, est-ce que je peux donner des exemples à ce qu'il dit, etc. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous disiez qu'en philo, on lit des textes, effectivement, ça va être aussi beaucoup de lecture de textes. Et puis, je pense que vous l'avez compris quand vous voyez comment ça se déroule là, c'est beaucoup d'oral aussi. La philo, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de débats entre vous, c'est beaucoup de... Souvent, moi, j'arrive en cours, je sais où je veux aller, et puis ensuite, je pose toutes les questions aux élèves pour que petit à petit, ce soit eux qui emmènent le cours vers l'endroit où moi, je veux aller. Donc, c'est un cours où on ne peut pas dormir. Malheureusement, si tout le monde dort, y a pas de cours, quoi. Voilà. Est-ce que, je pense qu'on va globalement s'arrêter là pour ce qui est de la philosophie, mais est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques ou... il y avait une remarque là-bas, ou une question.
Est-ce qu'il y a des philosophes encore connus, parce qu'on parle toujours d'anciens, mais pas beaucoup de nouveaux ?
Alors oui, bien sûr. Effectivement, vous avez des philosophes. Alors, on dirait qu'il y a un peu deux catégories. Il y a des philosophes plutôt médiatiques qu'on voit beaucoup à la télévision, qui s'exposent pas mal. Entre nous, ce ne sont pas forcément ceux qui ont les diplômes de philosophie. C'est aussi ceux qui viennent exposer leurs opinions à la télévision, etc. Et puis, par ailleurs, il y a énormément de... En fait, la différence entre, par exemple, quelqu'un qui va être professeur de philosophie et quelqu'un qui va être philosophe, c'est que celui qui est philosophe, c'est celui qui propose une théorie, une vision du monde, une conception, qui va écrire des livres, etc. Et oui, aujourd'hui, il y en a tout un tas, en fait. Il y en a encore beaucoup. D'ailleurs, en général, quand les élèves arrivent, je leur donne tout de suite une liste de livres qu'ils peuvent lire, qui ne sont pas des livres trop scolaires, enfin, qui sont plutôt des livres contemporains avec des questions, sur des choses comme la famille, la rupture, que ce soit une rupture amoureuse ou une rupture amicale ou familiale, etc., sur la colère. Bref, sur des choses vraiment très concrètes et très actuelles. La guerre, enfin voilà, des sujets. Ça parle pas que de choses d'il y a des siècles et des siècles. Il y a aussi encore des philosophes vivants aujourd'hui, heureusement. C'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on traite un sujet ensemble. Donc, comment on va s'organiser ? Je vais marquer le sujet au tableau. Et on va essayer de faire comme on fait en terminale, c'est-à-dire comment on analyse un sujet. D'abord, vous allez essayer de répondre vraiment de but en blanc, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous vient sans vraiment trop réfléchir, sans vraiment trop creuser, c'est-à-dire un peu quel est le sens commun par rapport à cette question. Le sens commun, c'est ce que les gens pensent de manière générale à propos d'une question. Ensuite, on va essayer d'analyser un peu plus en profondeur et de venir critiquer justement ce qu'on pensait être vrai au départ. Et puis si on a le temps, j'espère... On essaiera de trouver une autre formulation, une autre manière de résoudre ce problème-là. Ce sera un peu ce qu'on... En fait, en philo, je vous ai dit tout à l'heure, la disserte, c'est trois parties. En fait, ces trois éléments-là, c'est un peu les trois parties d'une dissertation, justement. Le sens commun, la critique du sens commun, et puis une proposition d'autre chose. OK ? Et ensuite, je vous donnerai un petit texte qui parlera de ce que je viens d'expliquer. Hop !
Vraiment, n'hésitez pas à lever la main. C'est valorisé au niveau de l'investissement et de la communication. Profitez-en, on n'a pas toujours cette écoute qui est possible.
Après, c'est peut-être intimidant le fait qu'il y ait un micro, mais...
Et voilà, n'hésitez pas, parce que vous avez tous des choses intéressantes à dire et vous ne pouvez pas vous tromper, d'accord ?
Oui, par ailleurs, c'est vrai que, merci de rappeler ça, en philosophie, c'est quand même le propre de cette matière, c'est qu'à moins vraiment de le faire exprès, vous n'allez jamais dire de grosses bêtises, en fait. Éventuellement, je pourrais vous dire, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pertinent, etc. Mais globalement, toutes les réponses peuvent être creusées, analysées. Donc, il n'y a vraiment pas de honte à proposer des choses. C'est, au contraire, c'est le moment de participer.
C'est pas le bac de philo demain non plus. Donc, en lien un peu avec le parcours à venir,
vous devez faire des choix, quel lycée, quelle formation, ce qui peut générer un peu de stress ou d'angoisse, la peur de se tromper, la peur de ne pas faire les bons choix. Voilà, parce qu'à terme, on pense justement à est-ce qu'on va réussir son orientation, est-ce qu'on va réussir sa vie. Donc, on va vous proposer de réfléchir à cette question-là. Qu'est-ce que réussir sa vie ?
Du coup, première étape un peu de ce questionnement, je voudrais que vous me disiez, vous, vraiment spontanément, si je vous dis c'est quoi pour vous réussir votre vie, qu'est-ce qui vous vient comme élément ? On va les lister. Il va y en avoir plusieurs, hein, donc ouais.
Bah, déjà, réaliser plusieurs de ses objectifs et de ses rêves.
Ok, réaliser ses rêves, c'est une belle définition. Donc on a plusieurs objectifs dans la vie. Réussir sa vie, ce serait un peu cocher toutes ces cases de ces rêves qu'on possède, oui.
Gagner de l'argent.
Ok, effectivement, c'est peut-être la première chose à laquelle tout le monde pense. Quand on dit réussir sa vie, en tout cas dans la société qui est la nôtre, quand on dit « t'as bien réussi ta vie », en général, ce qu'on sous-entend par là, c'est « t'as un bon salaire ». Donc bien sûr, évidemment, ça va être la question d'avoir un bon salaire, de bien gagner sa vie. D'ailleurs, gagner sa vie, réussir sa vie, vous remarquez que c'est assez proche hein, comme expression, je gagne bien ma vie égale j'ai bien réussi ma vie. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre ?
Être heureux.
Être heureux, très belle proposition. Ça rejoint un petit peu ce qu'avait dit votre camarade ici, mais en encore un peu plus fort. Réussir sa vie, ce serait en fait trouver tout simplement le bonheur. Ok.
Être épanoui dans ce qu'on fait ?
Être épanoui dans ce qu'on fait, c'est-à-dire plutôt professionnellement ? Ok, être épanoui, c'est bien.
Bah, c'est être heureux dans ce qu'on fait.
Être heureux dans ce qu'on fait, alors je vais pas, comme ça ressemble un peu à ce que vos camarades ont dit, je vais pas le rajouter, mais ok, d'accord. Mehdi ?
Moi, celui qui me paraissait un peu plus évident, c'est réussir ses études.
Peut-être, c'est vrai qu'avant d'avoir un bon métier avec un bon salaire, la priorité, ce serait d'abord de réussir ses études. Je vais le mettre tout en haut, du coup. Quand on vous dit « il faut que tu réussisses ta vie », en général, quand vous êtes au collège, ça veut dire en gros « t'as intérêt à bien réussir tes études ». Ok. Peut-être encore une dernière proposition ? Oui.
Ne dépendre de personne.
Ah, très belle définition aussi, l'indépendance. Effectivement, ne dépendre de personne, ça veut dire devenir rapidement autonome et indépendant. C'est une très bonne définition aussi. Vous voyez que vous avez tous quelque chose à dire.
Avoir une famille.
Exactement, c'est vrai que ça fait partie des autres grands critères qu'on peut souvent exposer. Réussir sa vie égale avoir un bon salaire, fonder une famille, et puis en général on peut ajouter aussi dans le gros, là vraiment je vais dans le cliché, hein, d'accord ? Ce qu'on peut ajouter aussi c'est avoir une belle voiture, une belle maison, une grande télé, bref, vous voyez toutes les acquisitions matérielles qu'on peut faire et qui sont le symbole de votre réussite. Donc être indépendant, fonder une famille, je pense qu'on a déjà pas mal de matière là, et avoir des acquisitions matérielles. Ça veut dire une belle voiture, ce que je disais tout à l'heure, une grande maison, etc. Alors des réseaux sociaux, réussir sa vie, ça peut être aussi voyager partout dans le monde et avoir les plus belles photos, par exemple, sur Instagram. Voilà, ça, c'est le symbole de la réussite. C'est-à-dire, vous voyez bien, j'ai bien réussi ma vie, regardez, je vais afficher les plus beaux moments de mon existence sur les réseaux sociaux. Preuve que ma vie est un parfait rêve. Alors, bien sûr, derrière, il se cache peut-être autre chose. Mais c'est ça, l'idée. Très bien. Oui.
On est juste deux autres.
Encore ? Il peut y avoir de place ?
Avoir une grande entreprise.
Ok.
Réussir professionnellement.
Ouais, réussir professionnellement.
Et avoir des amis.
Ah, c'est vrai qu'on pense toujours à l'amour, on pense rarement aux amis. Et pourtant, c'est un pilier tout aussi important, l'amitié, que l'amour. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Peut-être même un pilier plus solide. Réussir
professionnellement.
Ok, très bien.
Amour et amitié, peut-être.
Voilà, amour et amitié. Allez, je vais le mettre ici parce que j'ai plus de place. Qu'est-ce que vous remarquez avec cette diversité de réponses ? Qu'est-ce que ça vous indique, le fait que tous, entre vous, déjà, vous ayez eu toutes les réponses aussi diverses ? Qu'est-ce que ça a l'air de montrer, du coup ?
On a des objectifs différents.
Exactement, ça a l'air de montrer, et c'est là qu'on commence à chercher en philo, c'est une sorte de paradoxe ou de problème. D'un côté, on est en train d'essayer de chercher ce que ça veut dire réussir sa vie. Et on a bien l'impression que réussir, il n'y a pas 36 000 manières de réussir, d'accord ? Et puis d'un autre côté, ce qu'on constate, c'est que paradoxalement ou bizarrement, il y a 36 000 façons différentes, en fonction de qui vous êtes, de votre histoire, etc., de considérer ce qu'est la réussite. Il y en a qui tout de suite m'ont dit réaliser ses rêves, être heureux, trouver l'amour, fonder une famille. D'autres qui vont plutôt aller vers le réussir professionnellement, avoir une belle voiture, etc. Donc il y a quelque chose d'étonnant entre à la fois le fait de dire qu'on pourrait réussir, ou ce serait quoi le contraire de réussir sa vie du coup ?
Échouer.
Échouer sa vie. Ok. Et donc d'un autre côté, cette multiplicité de réponses différentes. Maintenant qu'on a listé comme ça tout le sens commun de ce que ça veut dire réussir sa vie, on va réfléchir au fait que l'expression réussir sa vie, c'est peut-être pas la plus appropriée et elle pose peut-être tout un tas de problèmes quand on l'utilise. D'habitude, quand je parle de réussir ou d'échouer, je parle plutôt de quel type de choses. C'est pour quel type d'activité qu'on dit ça normalement ?
Un exercice.
Exactement. C'est plutôt, par exemple, un exercice. Très bien, bon, bah, j'ai raté mon exercice, j'ai pas eu de bonne note. Ou au contraire, j'ai réussi mon exercice, très bien, j'ai eu une bonne note. J'ai répondu aux critères. Si vous réussissez votre exercice, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait des critères qu'on vous posait et vous, vous avez réussi à remplir ces critères-là. Bon, en quoi, du coup, c'est quand même très étonnant. Pourtant, on l'utilise beaucoup, hein, cette phrase. Mais en quoi c'est très surprenant d'utiliser le mot « réussir » pour parler de sa vie ? Ouais, Mehdi.
C'est comme on vient de démontrer, c'est qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser.
Alors que, quand on dit réussir, on a l'impression...
Que c'est une seule manière.
Exactement. On a l'impression, quand on dit réussir sa vie ou échouer sa vie, qu'il y aurait une sorte de critère général de ce que c'est une vie réussie. Voilà, on aurait un certificat, vie réussie, c'est bon, t'as fondé une famille, t'as eu ton métier, t'as fait des bonnes études, ta vie est réussie, bravo. On peut s'arrêter là, en fait, il n'y a plus grand-chose à voir d'autre. Alors qu'en fait, effectivement, ça donne l'impression qu'il y aurait... qu'une manière, qu'un critère, et que toutes les autres manières dont on aurait de concevoir sa vie, ce ne seraient pas des bonnes manières. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que si on n'a pas ça, ça veut dire qu'on aurait raté sa vie, qu'on aurait échoué sa vie. Donc ça, c'est une première manière à partir de laquelle on peut un petit peu questionner cette formulation-là de réussir sa vie. Et puis, par ailleurs, avec cette notion d'échec, ou de réussite, ou de victoire, ou de fait de gagner, qu'est-ce que, à votre avis, ça peut avoir comme effet sur une personne ? Le fait d'avoir cet enjeu comme ça qu'il faut absolument réussir sa vie. Qu'est-ce que ça peut générer comme émotion, par exemple, chez un individu ? Ou chez des jeunes, par exemple, comme vous qui... Si on vous dit, par exemple, il faut que tu réussisses ta vie.
Le stressant.
C'est plutôt stressant, exactement.
Ça met une pression.
Alors, carrément, si on va vraiment au bout, ça peut, en tout cas, pourquoi pas, être à l'origine, effectivement, d'un mal-être, voire, pourquoi pas, effectivement, d'une dépression. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas réussi, au sens où la société vous demande de réussir, ça peut être très, très difficile à supporter.
Ça peut nous démotiver.
Ça peut effectivement avoir l'effet inverse de vous démotiver, au sens aussi où, je ne sais pas, prenons un jeu. Dans un jeu, en général, il y a combien de vainqueurs ? En général, celui qui réussit, c'est le gagnant, quoi. Et il y a un peu cette idée-là dans la société où, pour réussir sa vie, pour que certains réussissent, globalement, il faut que quoi, en contrepartie ? Que d'autres échouent. Effectivement, donc ça génère aussi de la concurrence, de la compétition, peut-être aussi de la jalousie. Pourquoi est-ce que lui, il a réussi et pas moi ? Parce que peut-être qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, par exemple. Donc effectivement, le fait de réussir sa vie, ça peut engendrer, comme vous l'avez dit, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez ressentir quand on vous met un petit peu cette pression-là par rapport à la réussite de sa vie. Mais ça peut aussi, par ailleurs, entraîner de la compétition, de la jalousie. Donc toute une vision du monde qui n'est peut-être pas la vision la plus saine, en tout cas de notre existence, oui.
Je vais dire un truc, peut-être ça va être très bête, mais s'il fallait à la place échouer sa vie au lieu de réussir.
C'est pas bête, c'est une bonne remarque, mais échouer, peut-être réussir sa vie, dans le sens où vous le dites, ce serait échouer du point de vue des critères qui sont les critères presque officiels, quoi, les critères posés par la société. C'est ça que vous voulez dire ? Ok, c'est intéressant, en tout cas, quand on fait un grand 3 dans la dissertation, quand on fait la dernière partie de la dissertation, on essaye un peu de faire ce genre de retournement. Après, il faut expliquer ce que ça veut dire. Si maintenant, on essaie du coup de se passer de cette expression-là, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle n'était peut-être pas très bien formulée, comment est-ce qu'on pourrait essayer de formuler de manière plus juste le fait de, justement, réussir sa vie ? Comment est-ce qu'on pourrait utiliser d'autres mots qui, justement, n'engendreraient pas tout ce tas de problèmes qu'on vient d'évoquer ? Est-ce que vous avez des idées ?
Finir heureux.
Trouver le bonheur, en tout cas. Pourquoi pas ? Peut-être que sois heureux, c'est une injonction. Alors encore que ça peut être un peu difficile aussi, parce que si on n'est pas heureux, on se dit mais pourquoi est-ce que je ne suis pas heureux ? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Etc. Mais peut-être qu'en fait, trouver le bonheur, chacun le sien, ça peut être plus juste que de dire réussir sa vie. Vous sentez la différence ou pas entre réussir sa vie, on a l'impression que c'est une sorte d'objectif, un objectif unique, et être heureux, où en fait le bonheur, ça dépend vraiment des opinions des uns et des autres et des visions de votre existence. Donc c'est une très bonne remarque. Il y a une autre idée.
Parfois, les pauvres, ils sont peut-être plus heureux que les riches qui sont parfois malheureux.
Pourquoi vous dites ça?
Parfois, les riches, ils n'ont pas spécialement de famille et d'amis, donc ils sont parfois malheureux et tout seuls. Alors que les pauvres, ils sont parfois heureux et ils ont plein d'amis, plein de familles.
En tout cas, ce que vous dites, qui est très juste, c'est que peut-être que la richesse, ça ne suffit pas à faire le bonheur. Peut-être que le fait d'avoir beaucoup d'argent, parce que vous parlez des plus riches, par exemple, peut-être que le fait d'avoir beaucoup d'argent, ça ne suffira pas à combler quelqu'un. Et d'ailleurs, quel est le risque quand on a l'habitude comme ça d'avoir beaucoup d'argent? À votre avis, quel est un peu le risque vis-à-vis du bonheur, justement? Oui, devant.
De faire n'importe quoi avec l'argent.
Ah, alors effectivement, ça peut être ça, d'avoir aucune morale et de faire à peu près n'importe quoi. Ça peut être effectivement ça. Mais quel est aussi un autre risque vis-à-vis de son bonheur quand on a beaucoup d'argent? Oui.
Tu peux devenir une autre personne que tu n'étais pas avant, avec beaucoup d'argent, et du coup, tu deviens un peu moins heureux et les autres t'apprécient moins.
Et pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'on peut perdre?
On perd la satisfaction.
Exactement, c'est exactement ça que j'attendais. C'est que peut-être quand on... Alors, c'est une proposition, hein, mais peut-être quand on a l'habitude d'avoir beaucoup d'argent, on peut peut-être être perpétuellement insatisfait aussi. Parce que quelque part, même si je suis très riche, est-ce que, à votre avis, je ne peux pas toujours souhaiter être toujours un peu plus riche, puis un peu plus riche, et puis avoir encore un peu plus de confort? Et donc finalement, c'est un peu ce que dit le philosophe que j'ai cité tout à l'heure, qui est Platon. Est-ce que si finalement je fais reposer mon bonheur sur les richesses et les acquisitions matérielles, est-ce que je risque pas d'être perpétuellement insatisfait et de jamais me satisfaire de ce que j'ai? Et peut-être que du coup, effectivement, il y aurait des choses qui seraient plus stables pour mon bonheur que la richesse matérielle. Pourquoi pas? Oui.
En fait, des fois, quand on parle de richesse, des fois on se dit je vais être heureux parce que je peux obtenir tout ce que je voulais avoir. Mais moi, je me dis que des fois, si on va tout avoir ce qu'on voulait d'un coup, ben on n'aura plus la sensation de peut-être on va me l'acheter, je vais grandir, je vais prendre un petit peu, je vais cotiser de l'argent pour pouvoir me l'acheter, un petit peu un rêve.
Quoi. Un rêve, un projet.
Ce rêve, ce projet, voilà.
C'est très juste ce que vous dites. En fait, ce que dit votre camarade, c'est un peu une des choses qu'on voit en terminale en philo, c'est que si on dit que le bonheur, comme j'avais dit tout à l'heure, si on dit que le bonheur, c'est de réaliser tous ses désirs et donc de pouvoir, grâce à l'argent, par exemple, obtenir tout ce qu'on veut, ben, y a une chose qui n'existe plus, c'est le manque. Le manque, c'est la sensation de désirer quelque chose que vous n'avez pas. Si vous pouvez, en un claquement de doigts, obtenir tout ce que vous voulez, tout de suite, il y a une dimension de votre existence qui disparaît, c'est le manque. Et le manque, quelque part, on a tendance à voir ça comme quelque chose de négatif. On n'est pas content quand on n'a pas ce qu'on possède ou quand on n'a pas ce qu'on obtient. Mais en même temps, c'est aussi ça qui donne à l'existence, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une certaine saveur. Vous avez dit d'élaborer des projets, d'être dans l'attente, de construire sa vie autour de certains rêves. Et effectivement, peut-être le risque, quand il n'y a plus du tout de manque, c'est que on est encore plus vite insatisfait, on veut toujours quelque chose de plus, etc. etc. Très bien. Ce que je vous propose de faire, vu que... Ah, ouais.
Vous dites qu'on perd le manque, mais... C'est pas puisqu'on est riche qu'on perd le manque. On peut toujours vouloir des choses.
Oui, c'est une bonne remarque. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Je rebondissais sur ce que votre camarade avait dit, mais effectivement, on peut toujours vouloir plus. Mais on retombe aussi finalement sur le fait que si on fait reposer le bonheur sur seulement l'acquisition matérielle, est-ce qu'on risque pas de toujours vouloir plus, toujours vouloir autre chose et d'être perpétuellement insatisfait? Ce que vous disait votre camarade, c'est que quand on peut obtenir immédiatement ce qu'on souhaite, le manque, il dure très très peu de temps. Voire, en fait, il est presque inexistant en réalité.
C'est pas puisqu'on est riche qu'on peut obtenir directement ce qu'on souhaite.
Non, bien sûr. Non, mais très bien, très bonne remarque. Ce que je vous propose de faire, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble un texte de philo, je vous ai sélectionné un petit passage d'un livre d'un philosophe justement contemporain. C'est pas trop difficile à comprendre, je suis pas partie dans des siècles passés, etc. C'est plutôt quelqu'un qui fait de la vulgarisation en philo, donc qui s'adresse à des jeunes, à des personnes qui n'ont pas forcément de culture philosophique a priori. Donc c'est un texte qui s'appelle « Les vertus de l'échec » et qui part d'un personnage que vous connaissez sans doute tous, qui s'appelle Raphaël Nadal. A priori, ça va, vous devez connaître, ok ? Et donc, c'est un texte qui, justement, critique un petit peu cette idée de tout réussir, comme si l'échec était quelque chose qu'il fallait absolument craindre, comme quelque chose de négatif. Du coup, on va vous distribuer ce texte et vous allez prendre un peu de temps silencieusement pour le lire et on va voir ce que vous en avez compris. Tout le monde a eu le temps de lire ? C'est bon ? Alors, je ne l'avais lu qu'une fois, hein, donc j'imagine que tout n'a pas forcément été retenu, mais en gros, si je vous demande quelle est l'idée principale de ce texte ? Qu'est-ce qu'il veut vous montrer, en fait, cet auteur, avec tout cet exemple de Nadal, etc. ? Allez-y.
Ça veut nous montrer que l'échec est une bonne expérience.
Et même si je vais plus loin, que c'est même la condition de quoi ?
De la réussite.
De la réussite. Ça, c'est ce qu'on appelle un paradoxe. C'est-à-dire que, a priori, c'est pas comme ça qu'on regarde l'échec. Dans nos sociétés, comment on considère l'échec globalement ? Plutôt de manière négative ?
Oui, genre on est en colère, triste.
Alors vous, personnellement, vous êtes effectivement en colère et triste quand vous vivez un échec. C'est jamais très agréable d'essuyer un échec. Et puis par ailleurs, du point de vue de la société, rater certaines choses, c'est considéré comme quelque chose d'un peu humiliant ou d'un peu honteux. Et ce que vous dit ce texte, c'est qu'en fait, si vous voulez réussir, il n'y a pas d'autre moyen que d'en passer par l'échec. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Est-ce que vous avez compris son argument pour défendre cette idée-là ?
L'échec est riche en enseignement.
Exactement, il dit que l'échec est une source d'enseignement, et même encore plus que la victoire. Et est-ce que vous avez compris pourquoi il dit ça ? Pourquoi est-ce que l'échec est source d'enseignement ?
Parce qu'on apprend de nos erreurs, on ne refait pas ce qui s'est mal passé ou autre. Quoi. C'est une leçon de vie, on va dire.
C'est complètement une leçon de vie. Et il dit qu'en fait, si on ne se trompe jamais, vous avez raison, on ne va jamais pouvoir se dire « Ah mince, pourquoi je me suis trompée ?» Et quand on dit « Ah mince, pourquoi je me suis trompée ?», on commence à entamer finalement une sorte de quête dans le but de s'améliorer. Si on ne rencontre jamais l'échec, qu'est-ce qui se passe ? Si on ne se trompe jamais, si on réussit tout du premier coup tout le temps, qu'est-ce qu'on ne va jamais faire finalement ?
On n'apprend rien.
En tout cas, on ne pourra pas se remettre en question. On ne pourra pas apprendre de nouvelles choses, effectivement.
Oui. En fait, aussi un peu mal avec... Quand on va faire que de réussir, ben à un certain moment, parler du tennis, je vais reprendre le tennis comme disons Rafael Nadal, il faisait que de gagner, et il se dit il y a aucun adversaire qui est de ma taille, ça va l'ennuyer un peu parce qu'il va faire que de gagner.
Vous dire que même pour lui, ce serait ennuyeux en fait comme situation.
Oui.
Exactement. Qui pourrait me résumer l'exemple qu'il prend là avec Nadal ? Donc c'est Nadal et puis Richard Gasquet. Qui saurait résumer en quelques mots là ce qui est dit dans le texte ?
Que s'il avait jamais échoué au début, il aurait sûrement jamais gagné autant de matchs et il se serait jamais remis en question, amélioré sa manière de jouer, etc.
Exactement. Il paraît que Gasquet avait un jeu assez agressif auquel Nadal n'était pas préparé sur le moment. Et c'est justement suite à cet échec qu'il a un peu traumatisé, parce que c'est un échec qui lui a coûté quand même un vrai trophée à Nadal. Donc il a assez mal quand même vécu cet échec-là, mais c'est ça qui lui a permis de s'interroger sur son jeu, de s'interroger sur le jeu de Gasquet et donc de s'améliorer. Et dans le texte, il dit que l'échec, c'est ce qui nous confronte aussi à la réalité. C'est-à-dire que quand je me trompe, ça m'oblige à regarder pourquoi est-ce que le réel me résiste comme ça. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas comme j'ai envie que ça fonctionne ? Et c'est là que ça me fait progresser. Je voulais vous remercier surtout parce que vous avez été un très bon public, vous avez plein de très bonnes idées et tout, et je suis très contente.
On va simplement vous faire un petit questionnaire pour avoir une sorte de sondage sur comment vous avez vécu l'atelier. Donc, qu'as-tu retenu de cette séance ? Qu'as-tu aimé dans cette découverte de la philosophie ? Et cette séance t'a-t-elle donné envie de te poser d'autres questions ? Si oui, lesquelles ? Et là, les timides pourront s'exprimer à l'écrit.
La philosophie est une école de la liberté, disait Edgar Morin. Aujourd'hui, une professeure de philo, Madame Delobel, était invitée dans un cours de SVT avec des troisièmes par Madame Gomez-Ortiz. Ainsi s'achève cette expérience intellectuelle unique où des collégiens ont eu l'opportunité d'activer leurs neurones, de remettre en question des idées reçues et de donner un sens personnel à la notion de réussite. Grâce à l'enthousiasme et à la bienveillance de leur initiatrice, ils ont découvert que penser par soi-même est une conquête, un exercice stimulant et libérateur. Et si cette initiation leur a appris quelque chose, c'est que philosopher, ne sert pas forcément à donner des réponses, mais à apprendre à questionner. Merci d'avoir partagé ce voyage intellectuel avec nous. À bientôt pour d'autres explorations de pensée sur InfoRC.